France Culture, l'esprit d'ouverture.
10 minutes par semaine pour comprendre un échec. Guillaume Herner.
Super Fail, le magazine de l'erreur, parce que l'on a toujours au moins une bonne raison de se planter. Un échec analysé chaque semaine, Super Fail. C'est à podcaster tous les lundis, sauf si ça plante.
Super Fail, Guillaume Herner, en podcast et en podcast seulement sur franceculture.fr.
Du lundi au vendredi sur France Culture, Adèle Vendrette prend la vie avec philosophie.
Qui a dit que la philosophie n'était pas accessible à tous ? Chaque jour, je vous emmène à la découverte d'un philosophe à partir d'un poème, d'un roman ou d'un film, en musique et en chanson, pour voguer en sécurité sur la mer parfois houleuse des discussions philosophiques.
Cette semaine, la grève du sexe contre la guerre chez Aristophane, la grève des mineurs d'Anzin qui inspire Germinal à Zola, la grève dans les chemins de la philosophie, cette semaine à 10h et sur franceculture.fr. France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. L'Iran ne se sent plus tenu par aucune limite sur le nombre de ses centrifugeuses. Le pays a présenté hier la cinquième et dernière phase de son plan de réduction de ses engagements en matière nucléaire. Téhéran s'éloigne donc un peu plus de l'accord de Vienne signé en 2015. Une annonce qui intervient dans un climat de tension accrue avec les États-Unis. Après l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani, il a été tué, je vous le rappelle, vendredi par une frappe aérienne américaine à Bagdad. Alors qu'un deuil national a débuté en Iran, Donald Trump menace encore le pays de représailles majeures en cas d'attaque iranienne. Le président américain prévient également l'Irak. Bagdad pourrait subir de très fortes sanctions, dit-il, si les troupes américaines devaient partir du pays. Le Parlement irakien a réclamé hier l'expulsion des troupes américaines. Alors que l'Australie continue de brûler, que 24 personnes sont mortes depuis le début du mois de septembre dans le pays, les promesses de dons pour aider l'Australie se multiplient. Des personnalités lancent des appels sur les réseaux sociaux, tandis que des chefs d'État proposent leur aide. Emmanuel Macron en France évoquait hier une aide opérationnelle immédiate pour l'Australie. Quand le Premier ministre canadien Justin Trudeau appelait lui ses concitoyens à faire des dons pour venir en aide aux victimes. Après 2 semaines de vacances scolaires en France, la mobilisation contre la réforme des retraites reprend de plus belle. Aujourd'hui, lundi, les avocats entament une grève dure. Le trafic reste perturbé en Île-de-France dans les transports, un petit peu moins en France en général à la SNCF. Alors que la CGT Chimie promet une mobilisation nationale dans les raffineries, et ce dès demain. C'est d'ailleurs demain que les négociations entre partenaires sociaux et gouvernement doivent reprendre, avant 2 journées de mobilisation interprofessionnelle, jeudi et samedi. Et puis notons cette réaction du gouvernement japonais après la fuite de Carlos Ghosn, la première réaction en une semaine. Cette fuite de Carlos Ghosn est injustifiable, voilà ce que dit la ministre japonaise de la Justice. L'ancien patron de Renault Nissan a fui le Japon en début de semaine pour rejoindre le Liban où il est protégé. Il tiendra une conférence de presse mercredi.
Depuis 7 ans, la France a été touchée par 18 attaques terroristes islamistes. L'attentat de janvier 2015 contre le journal Charlie Hebdo marque un tournant. Que devient le journal ? Comment vit-on en France avec la menace terroriste ? Comment se sont reconstruites les victimes ?
Les victimes sont l'outil pour frapper une société. Tout le sens du combat que je mène aujourd'hui, c'est de montrer à quel point, non seulement les victimes ont un contentieux bien sûr avec les terroristes, elles ont aussi un contentieux avec la société elle-même.
Vivre avec le terrorisme, une série documentaire d'Alain Lefkovitch et Séverine Cassard, et un grand reportage des journalistes de France Culture, cette semaine à 17h et sur franceculture.fr.
France Culture présente Tommaso d'Abel Ferrara. Après Pasolini, Willem Dafoe retrouve Abel Ferrara pour interpréter Tommaso, un artiste américain vivant à Rome avec sa jeune épouse et leur petite fille. Ancien junkie, Tommaso essaie désormais de mener une vie rangée entre l'écriture de scénarios, la méditation et son cours de théâtre. Mais malgré ses efforts, Tommaso est rattrapé par ses délires. Ses fantasmes finissent par prendre le pas sur la réalité. Tommaso, d'Abel Ferrara, à partir du 8 janvier au cinéma. Un partenariat France Culture.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil Culturel. Le Réveil Culturel, c'est tous les jours de la semaine des potrovinés à la radio ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en différé, en ligne donc, ou par abonnement au podcast de l'émission disponible sur l'application de Radio France par exemple, ou encore en quelques clics à partir de la page franceculture.fr. Alors justement, est-ce que le numérique va bientôt nous rendre dépendants de la machine? Autrement dit, faut-il se méfier de la tyrannie des algorithmes, pour reprendre le titre de l'essai publié par Textuel, dans lequel mon invité du jour, le philosophe et psychanalyste Miguel Benassayag, livre ses réflexions à l'anthropologue Régis Méran. Les humains ont-ils intérêt à déléguer de plus en plus de leurs fonctions aux programmes informatiques? Alors bien sûr, sans refaire le match d'ailleurs dépassé entre technophiles et technophobes, est-ce que c'est pas le bon jour pour se poser la question de savoir si bientôt les machines vont dominer nos vies jusqu'à nous déshumaniser? Le Réveil Culturel est une émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la technique Olivier Dupré.
Le Réveil Culturel, lundi, livre.
Bonjour Miguel Benassayag.
Bonjour.
Alors on va parler justement de la tyrannie des algorithmes, très beau titre donc de cet essai en forme d'interview édité par Textuel. Mais d'abord, rappelez que vous avez beaucoup travaillé sur le rapport entre la machine et l'homme. Vous avez publié plusieurs livres. Rappelez que vous êtes philosophe, psychanalyste, mais aussi un homme de combat, de cause. Vous êtes un ancien résistant guévariste, vous êtes d'origine argentine. Tout d'abord, quand vous dites la tyrannie des algorithmes, juste pour entamer la discussion, j'ai envie de vous contredire en disant que les algorithmes sont quand même des programmes écrits par des hommes avec leur sensibilité d'humain et qui peuvent être toujours contrôlés par les hommes. L'intelligence artificielle, ce n'est que ça, ce ne sont que des algorithmes.
La tyrannie des algorithmes, c'est juste un titre, non ? C'est-à-dire les algorithmes, ce sont des combinatoires mathématiques qui ne tyrannisent, n'aiment, ne détestent rien. C'est-à-dire, ce sont des processus sans aucun sujet. Justement, c'est une des caractéristiques principales. Ce sont des processus sans sujet.
Mais des produits de l'homme, hein.
Alors, la question, c'est que, moi, j'ai beaucoup travaillé dans les rapports cerveau, machine, digital, etc. C'est pour ça que, on arrive à ce petit bouquin, parce que, au fait, ce dont on se rend compte, c'est que ce dont vous parlez justement à la présentation de l'émission, il existe des mécanismes qu'on appelle en neurologie de délégation des activités, délégation des fonctions, n'est-ce pas, cérébrales et corporelles aussi, mais bon, là, restons au cerveau, vers la machine. Cette délégation des fonctions n'est pas un pur profit, c'est-à-dire on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, etc.
C'est-à-dire qu'on, pour aller très vite, ça va pas nous libérer, ça va pas nous soulager, bien au contraire.
Si ça peut soulager, les problèmes, c'est que cette délégation, depuis une vingtaine d'années, est une délégation à sens unique, c'est-à-dire que nous déléguons de plus en plus nos fonctions, différentes fonctions, hein, c'est-à-dire ça peut être un truc très complexe, ça peut être diriger l'économie mondiale, comme ça peut être diriger votre journée, ou vous divertir, je ne sais rien. Mm-hmm. On délègue de plus en plus. Cette délégation, ce qui est ignoré, et pour cause, par le grand public, c'est que ce que le cerveau n'a plus à faire, ben, ne le fait plus. Ne les fait plus. Alors, par exemple, pour une recherche antérieure, on avait travaillé sur les GPS, par exemple. Voilà un exemple concret d'algorithme. Alors, donc, c'était deux équipes de chauffeurs de taxi novices, non, qui commençaient à travailler à Londres et à Paris, deux villes labyrinthiques, non. C'est pour ça que c'est de Londres qui commençait à conduire sans GPS, et c'est de Paris avec GPS. Au bout de 3 ans, tous les membres de l'équipe d'expérimentation de Paris avaient les noyaux sous-corticaux qui cartographient le temps et l'espace, hein, que c'est-à-dire le temps et l'espace, qui vous disent où vous êtes, qui est, je sais pas.
Absolument.
Atrophiés. Avec des atrophies différentes. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que quand on délègue cette fonction, n'est-ce pas, la fonction de s'orienter, la fonction de dire où j'y vais, droite, gauche, on perd les notions spatio-temporelles petit à petit, et ces noyaux-là, que jusque-là, avaient comme fonction, cette fonction qui est vitale et très importante, eh ben, ils s'atrophient. Alors, il peut se passer dans la longue durée, dans la très longue durée, il se passe dans l'évolution des espèces, qu'on délègue des fonctions, par exemple, une autre espèce, et on recycle cette zone-là pour autre fonction. Mais pas avec cette vitesse-là. Vous voyez? C'est-à-dire pas à cette vitesse-là. Si je délègue les fonctions, délègue les fonctions vers le GPS, pour parler à cet exemple-là, mais il y en a de tant d'autres. Si je délègue cette fonction-là avec une trop grande vitesse, il n'y a absolument pas la possibilité de recycler ces zones-là. Alors, qu'est-ce qui se passe, ces noyaux-là? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a des phénomènes d'atrophie. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai fait une tonne de recherches en montrant, comme vous l'avez très bien dit, au-delà des technophiles ou technophobes, qui sont un peu des bêtises. Hein,
ouais, c'est dépassé maintenant. C'est absolument... La machine est là, vous le dites voilà. D'emblée, la machine est là, il faut faire avec. Hein.
C'est la réalité. Alors donc, quand, à partir d'un tas de recherches en montrant cette délégation des fonctions qui font qu'effectivement, ça affaiblit beaucoup la capacité de décision, de réflexion, c'est un double petit peu ce que Jean-Michel Vesnier, il appelle l'homme diminué, n'est-ce pas, quelque part. Bon.
Alors qu'on nous avait proposé exactement le contraire, hein, c'est-à-dire l'homme augmenté par les progrès technologiques.
Absolument. Cette augmentation est avec ce mécanisme-là. Je diminue mes fonctions et je les mets sur la machine. Alors, ce que je voulais vous commenter, c'est que quand j'ai sorti toutes ces recherches-là, je m'attendais à que les chers collègues, vous savez comment on dit pour ne pas s'insulter, non, les chers collègues allaient dire « Oh non, non, mais c'est pas une recherche très stricte, c'est pas bien fait, c'est pas bien tabulé. » Bon, 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 pas du tout. La réaction était pire. Ils m'ont dit « Oui, et alors ?» C'est-à-dire que dans les milieux de la recherche technoscientifique, et dans pas mal d'autres milieux aussi, on considère que bon, mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et que voilà, maintenant on délègue, et que le cerveau va devenir un segment dans la grande machine, patatim patata. Bon, vous savez, c'est-à-dire quand on apprend un enfant à faire une racine carrée, un algorithme, un truc un tout petit peu compliqué, on peut voir grâce à l'imagerie médicale comment le cerveau se complexifie, l'architecture cérébrale se complexifie. Si le môme appuie un bouton, il ne se complexifie pas. Alors après, il dit, et à quoi ça te sert de savoir faire une racine carrée quand tu as plus de 30 ans? À rien, effectivement. Sauf que ces mêmes réseaux sont ceux qui servent à la pensée complexe, à la pensée contradictoire, à la capacité de supporter la temporalité nécessaire pour réfléchir.
Et on ne peut pas compenser, pardon Miguel Benassayag, de porter la contradiction, mais par exemple, un aspirateur, un robot qui ferait le ménage à la maison, forcément, aura peut-être des conséquences sur notre physique, parce qu'on fera pas d'efforts, mais on pourrait utiliser ce temps pour aller dans une salle de sport.
Mais absolument.
Donc on peut trouver toujours des arrangements.
Mais absolument, mais c'est ce qui se passe pas. C'est-à-dire, moi j'habite en 6e étage, et heureusement un ascenseur, un peu merdique tout petit, mais il a le mérite d'exister. Bah, depuis que j'ai l'ascenseur, je suis pas devenu un flan sans muscle. J'ai fait de la gym. C'est exactement ce qu'on fait pas avec les cerveaux et les algorithmes. Et l'autre, il y a quelques jours, à Buenos Aires, je donne des cours à la fac, alors un jeune ingénieur très brillant en plus, il m'a dit « Bon, mais écoute, quand même, Miguel, moi je m'en sers, j'ai gagné mes 2 heures avec des calculs que je n'ai pas à faire. » Je lui ai dit « Mais tu as tout à fait raison, mais toi tu es l'exemple parfait des hybridations. » C'est-à-dire que tu utilises, comme l'aspirateur, comme moi l'ascenseur, c'est-à-dire tu utilises la machine pour ton projet. Le problème, c'est que aujourd'hui, les algorithmes à l'école, à la primaire, à la maternelle, s'adressent à un cerveau pas formé du tout. On n'est pas dans les cas du gars de Buenos Aires qui est un ingénieur, qui pense, qui patatine patatane, et qui utilise la machine, n'est-ce pas? On est dans la pédagogie des compétences, dans les ordinateurs à l'école, etc. On est dans une sorte de vision modulaire de l'être humain qui est un peu casse-gueule. Est un peu casse-gueule et il manque de réflexion. Moi, je ne pense pas, effectivement, comme dans les cas de l'ingénieur. Ce qui est souhaitable, c'est comme le mec qui a l'aspirateur ou l'ascenseur, il va à la salle de gym, il hybride.
C'est ce que vous dites dans ce passionnant petit livre, dit chez Textuel, La tyrannie des algorithmes, et c'est un échange avec Régis Mérand. Vous dites que vous êtes pour l'hybridation humain-machine. Ne surtout pas laisser la machine s'occuper de tout, de toute l'organisation de la vie des humains, mais voilà, faire ce partage avec la machine des tâches à faire.
Oui, absolument. La question, c'est savoir Alors, on est dans une situation très paradoxale, non ? Parce que comme les machines, ils font tellement, tellement, tellement de choses. Moi, je le vois chez les collègues chercheurs même. Hein. Tout à coup, on doit se dire, oui, mais au fait, c'était quoi qui était la singularité du vivant, de l'humain ? Vous comprenez ? C'est-à-dire, c'est comme si tout à coup, il n'y a pas que l'aspirateur. Il y a tout à coup un robot qui fait tout, 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 tout. Même l'amour avec votre femme, comme propose maintenant, vous voyez, toutes ces machines à faire l'amour, etc. N'est-ce pas ? Bon. Alors, vous avez une machine, vous voyez, qui s'occupe de tout, qui est très bien. Et alors, tout à coup, on se dit, ah bah merde, et moi, à quoi je sers ? Ben, c'est exactement la question centrale qu'aujourd'hui, on doit se poser. C'est-à-dire, quelle est la singularité du vivant et du cerveau humain ?
Est-ce que, pour vous, Miguel Benassayek, c'est un nouveau débat ramené par le numérique, ou c'est toujours le même débat ? Qu'est-ce qu'on fait avec nos inventions ? Parce que ce que vous posez là comme problème, on l'a sans doute posé à l'époque du nucléaire, hein, et on sait qu'avec le nucléaire, on fait le meilleur et le pire.
Si on l'a posé même très longtemps avant avec l'imprimerie par exemple, n'est-ce pas ? C'est-à-dire on disait que l'effet d'avoir des bouquins, ça allait rendre ignorants les gens. Pourquoi on disait ça ? Parce que l'Église, non, disait il faut pas laisser que les gens lisent n'importe quoi et qu'interprètent. La lecture en voix basse était vue comme subversive parce qu'on disait bah là les mecs et la nana ils vont tirer les conclusions qu'ils veulent en tant que sinon les cure-t-on de surcroît en parlant latin. C'était lui qui donnait l'interprétation.
Alors, donc vous confirmez que c'est un vieux débat.
C'est un vieux débat, très vieux débat. La particularité actuelle, c'est que l'imprimerie a 5 siècles. N'est-ce pas ? Il y a eu un temps de régulation,
d'adaptation, c'est ça ?
D'adaptation, d'adaptation.
Alors que pour vous, le numérique, ça va trop vite.
Et pour moi, sincèrement, ça en déplaise à certains technophobes total. Pour moi, non, le problème principal, c'est ça. C'est la vitesse de colonisation de notre vie.
C'est ce que vous dites la colonisation de nos corps et de nos esprits par le numérique, par la machine.
Ouais. Et oui, vous voyez, par exemple, d'un point de vue politique, mettons, n'est-ce pas ? On sait bien que les élus, ils représentent non pas le peuple, mais la macroéconomie, n'est-ce pas ? Ils représentent la macroéconomie face au peuple, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, mais la macroéconomie, c'est quoi ? Mais avec les big data, avec les grandes banques de données, mais vous imaginez les grandes décisions, les grandes orientations sont données par personne, sont données par des machines qui, en microsecondes, tiennent en compte des milliards de données. Et après, il n'y a pas Juan Pérez qui va dire « Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord. » Vous voyez ? C'est-à-dire que les grandes orientations en médecine, par exemple, en médecine concrètement, les diagnostics par Big Data, bah, c'est-à-dire, moi, je suis très content si je peux avoir un Big Data pour un cas orphelin, comme on dit, que je n'ai piche que dalle. OK. Mais le problème, c'est que ce n'est pas ça. Les diagnostics par Big Data, c'est j'ai une grille préétablie que j'applique au mec ou à la nana qui vient. Il doit répondre non pas d'après sa subjectivité, mais d'après ce qui rentre dans la grille. Et il arrive à un diagnostic qu'on appelle individualisé. Bon, la vérité, c'est que là, il y a une double absence du malade et du médecin. Alors, quelle était la médecine jusqu'à aujourd'hui ? La clinique en général, c'était en Paris. En Paris, c'est-à-dire, on tient compte du savoir, mais le savoir est nécessaire, mais pas suffisant, comme on dit. Et il y a cette réalité du vivant, de l'humain, dans laquelle je tiens compte de tout ce savoir-là, je tiens compte de tout ce que Big Data veut me dire, mais je fais un pari. Le diagnostic est un pari partagé avec les malades. Alors, tout ça, c'est très beau. Sauf que si vous vous gourrez et les patients clampent avec votre pari, vous êtes mal. Si le patient clampe avec Big Data, c'est la faute à personne. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une déresponsabilisation de plus en plus grande de la population, pas que du médecin ou des politiciens. Il y a une déresponsabilisation, même au quotidien. C'est-à-dire, cette délégation des fonctions provoque une absence. On se rend absent à notre vie, de plus en plus. Et plutôt que fonctionner, j'ai dit, il faudrait quand même voir à quoi s'agit, de quoi il s'agit d'exister, n'est-ce pas ?
C'est-à-dire à quoi, oui, c'est quoi le sens profond, pour ne pas dire philosophique, de notre existence sur Terre ? Et c'est très très bien expliqué dans ce petit livre, La tyrannie des algorithmes. Vous restez avec nous, Miguel Benassayag.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec le philosophe et psychanalyste Miguel Benassayag, autour du dernier livre paru en forme d'entretien autour de la tyrannie des algorithmes. Ce que vous dites en plus dans ce livre, c'est que notre modèle d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire ce modèle de démocratie occidentale, est menacé aussi par les algorithmes, que tout système politique est menacé par quelque chose qui pourrait ressembler à une technocratie.
Si, il existe une fascination, et c'est compréhensible, par le monde des algorithmes, mais le problème c'est que les algorithmes signifient très concrètement, en traduction, calculabilité. Hein, c'est comme ça, c'est calculabilité. Les algorithmes, ils peuvent apprendre de leurs erreurs, mais pour calculer toujours positivement. Or, il s'avère que la vie humaine n'est pas gérée par la rationalité calculante. Il existe l'irrationnel, l'affectif, la subjectivité, les caprices, n'est-ce pas, les désirs, quoi. Alors donc, le problème, c'est que dans notre société, de plus en plus gérée par des algorithmes, il y a cette sorte de phrase stupide qui dit « c'est panoptique, non, c'est panoptique, c'est transparent, mais si j'ai rien à cacher ». Mais c'est con, ça, parce que il s'agit pas d'avoir quelque chose à cacher.
Vous parlez des données ?
Oui, on dit « les données sont accessibles ». Effectivement, sont accessibles et seront de plus en plus accessibles. Alors on dit, mais si j'ai rien à cacher, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est là où petit à petit on se dit, je vais fonctionner, je fonctionne bien, donc tout va bien. Mais le problème, c'est que la vie humaine ne peut pas se réduire au fonctionnement.
Voilà, vous dites, les machines fonctionnent, mais les êtres humains vivent.
Exactement. Et vivre, ça signifie, il ne faut pas avoir là derrière un truc très romantique, qui ont fait des tableaux magnifiques, qui ont créé des poèmes. Non, l'être humain merde. C'est comme ça, c'est normal. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas fonctionner bien comme une machine. Une machine fonctionne mal, on la corrige. Un être humain fonctionne mal, c'est normal. C'est normal. C'est-à-dire, c'est normal parce que les humains, nous ne pouvons pas, pour aller vite fait, ne pas merder. C'est-à-dire, on ne peut pas aller en ligne droite parce que c'est la plus courte, comme voulait le Corbusier, n'est-ce pas ? On ne peut pas toujours être raisonnable. On ne peut pas. Alors, pourquoi on ne peut pas ? On n'a pas 3 ans d'émission, n'est-ce pas ? Et même là, on ne pourrait pas le dire. Mais ce que le monde algorithmique ignore et écrase, c'est toute cette singularité du vivant qui incorpore la négativité, non pas comme une faille, comme une défaillance, mais peut-être comme une faille existentielle, quelque chose. Il faut faire avec, quoi. Moi, j'ai 40 années de clinique psychiatrique et psychanalytique. Je vous assure que penser un monde géré par une raison calculante, bah c'est la pire folie. Je n'ai jamais trouvé plus fou que ça, alors.
Miguel Benassayag, avant de revenir à ce point très très précis, parce que vous dites que nous sommes déjà en post-démocratie, est-ce que vous craignez, est-ce que vous pensez qu'un jour les machines vont prendre le dessus sur nos envies, sur nos ordres, sur ce qu'on veut obtenir d'elles ?
Le problème, c'est les mécanismes de régulation face à des machines si puissantes qui peuvent prévoir, surveiller.
Mais elles sont puissantes parce que nos algorithmes sont puissants et de plus en plus sophistiqués. Hein.
Absolument.
Donc l'homme est toujours à la tête de cette machination, si je puis dire.
Mais il ne faut pas non plus être trop optimiste. On ne peut pas débrancher la machine. Il y a une autonomie de tout ça. Il y a une certaine autonomie.
Ça vous fait peur ?
Moi, c'est pas que ça me fasse peur ou pas peur, c'est-à-dire, j'aurais du mal à dire j'ai peur, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, parce que plutôt, si je m'inquiète plutôt qu'avoir peur, je me dis ben, comment je réagis ? C'est un peu ma nature, moi. Mais donc, comment je réagis ? Moi, je me dis, comment on va faire avec un monde de surveillance totale ? Vous imaginez ce qui se passe en Chine ? Mais en Chine, où à travers la reconnaissance faciale, etc., chaque Chinois est évalué, il a une note, non, une bonne note, une mauvaise note. Et c'est-à-dire que cet quadrillage total de la vie. Moi, je vais vous raconter cet exemple, je l'ai vécu. J'ai passé plusieurs années en tôle en Argentine à l'époque de la dictature. Et heureusement, j'étais la plupart de ces années dans une tôle pourrie vieille. C'était un gruyère, on cachait tout, on faisait des trous dans les murs, voilà. Et quelques temps, j'étais dans une prison nouvelle, avec des caméras et je sais pas quoi. Je vous assure que là, c'était une souffrance totale. Parce que tout à coup, le fait de qu'il n'y ait pas de plis, qu'il n'y ait pas de replis, qu'il n'y ait pas de clair-obscur, vous voyez, cette permanente surveillance, eh bien, c'était une horreur. Eh bien,
mais une fois de plus, ça dépend de ce qu'on fait des avancées technologiques. On peut s'en servir pour le meilleur et effectivement, quand pour plein d'autres choses, on peut s'en servir aussi pour le pire.
Oui, mais comme c'est les humains qui font ça, on voit bien qu'est-ce qu'ils font les humains. C'est-à-dire, effectivement, les marteaux, on pouvait l'utiliser pour mettre un petit clou et mettre la photo de ma fille, mais on pouvait l'utiliser pour casser la tête de l'autre. En général, on l'utilise pour casser la tête des autres.
J'irai pas jusqu'à dire non, ça, Miguel Vilasayag.
Non, mais on voit bien que, non, mais aussi. D'accord, disons d'accord, aussi. Alors donc, on ne peut pas dire, par exemple, mais si on utilisait bien les marteaux, mais si on utilisait bien les algorithmes. Non, il faut avoir un réalisme concret, terre à terre, de dire, puisque nous sommes des humains, il faut bien savoir qu'il faut ne pas se laisser coloniser par ça, parce que comme nous merdons, eh bien, on va faire merder les algorithmes.
Vous dites, dans notre monde soumis à la gouvernance digitale, le corps est un obstacle récalcitrant.
Ah oui, absolument, parce que, effectivement, c'est-à-dire la modélisation du corps humain, la modélisation des fonctions, etc., est quelque chose dans lequel les corps, toujours, sont un peu trop opaques. C'est pour ça que tous les délires transhumanistes, non, dont ces grandes canailles de Laura Alexandre, et comme ça, c'est l'horreur totale, n'est-ce pas, cet homme. Tout ce truc de transhumanisme dans lequel nous vivons, on va laisser derrière nos corps et on va vivre sur d'autres supports. C'est de cela qu'on parle. Ils parlent de ça. Ils parlent de ça et eux sont des délirants ou des canailles. Mais dans la recherche technoscientifique, tout vise à déréguler, vous voyez. Alors, moi je suis le mec qui cherche à étudier les régulations, les mécanismes de régulation. Pourquoi ? Parce qu'il me semble qu'à penser seulement dans le sens d'expansion de la puissance, on oublie les mécanismes antagoniques nécessaires.
On est en post-démocratie alors, Miguel Benassayag ?
Alors là, si nous continuons à obéir aux diktats des grandes machines big data qui déterminent sans aucune décision humaine les grandes orientations, bah là il y a quelque chose qui est un attentat à la démocratie. Je me suis battu pour la démocratie contre les militaires, et là on savait comment faire, n'est-ce pas ? C'était très dur, on savait plus ou moins comment faire. On a plus ou moins gagné, on voit bien qu'on ne gagne jamais tout à fait. Contre la délégation des fonctions démocratiques, économiques vers la machine, là, je ne sais pas comment résister.
La tyrannie des algorithmes et l'interview de Miguel Benassayag sont désormais disponibles dans notre machine. On peut les écouter quand on veut. Merci beaucoup d'être passé.
Merci à vous.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
C'est dans la série Conversation pour demain que paraît chez Textuel La tyrannie des algorithmes, cette discussion de Miguel Benassayag avec Régis Mérand. À demain!
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque jour à 18h20, c'est le temps du débat sur France Culture. Emmanuel Laurentin.
Les années 1990 avaient été marquées par un élan des droits de l'homme à travers le monde. Depuis quelque temps, défendre les droits de l'homme est au contraire devenu dans certains milieux une insulte. On parle de droits de l'hommiste. Le temps du débat tente ce lundi de comprendre cette évolution.
Le temps du débat, ce lundi à 18h20 et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Après l'Iran, l'Irak semble rejeter en bloc la présence américaine sur son sol. Les députés y ont voté hier le retrait des troupes internationales. Une demande non contraignante mais extrêmement symbolique, alors que la tension est au plus haut dans la région et qu'aucun pays ne semble endosser le rôle de régulateur, vous l'entendrez. Les troupes turques se déploient en Libye. C'est en tout cas ce qu'annonce le président Recep Tayyip Erdogan. Et nous y reviendrons dans un instant. Et puis dans ce journal également, nous nous pencherons sur la mobilisation contre la réforme des retraites en France. Elle entre dans son deuxième mois ce lundi, jour de retour de vacances. Les syndicats se préparent à une semaine chargée. Mais d'abord partons au bout du monde avec le témoignage de pompiers australiens qui combattent depuis des mois maintenant les incendies qui ravagent le pays. Et surtout la côte est de l'Australie où plus de 20 personnes sont mortes depuis le mois de septembre. Après un week-end très difficile, Gaëlle Joly a rencontré ses soldats du feu de retour du front. Elle raconte.
Le visage encore couvert de suie, les mains noires de cendres, le jeune Adrian Butters, 26 ans, pompier volontaire, a du mal à contenir ses larmes quand il s'agit de raconter son face-à-face avec les flammes. Il vient de passer 18 heures sur le pont. Samedi, il a combattu celui qu'on appelle ici le monstre dans des conditions épouvantables.
It was home, so...
Il faisait chaud, vous sentez la peur. Et ce qui est effrayant, c'est la taille des flammes. Et à 2-3 heures du matin, le feu est toujours aussi intense. Je crois que ce qui m'a le plus effrayé, c'est que mon frère, ma sœur, ma mère, mon père l'étaient vraiment. Émotionnellement, c'est éprouvant. Physiquement, c'est éprouvant. Mais au bout du compte, le pays est en train de brûler. Et on ne va pas obtenir de renfort. Donc si on ne fait rien, qui va le faire ?
Les risques sont énormes, les sacrifices aussi. Déjà 3 pompiers ont perdu la vie, 5 millions d'hectares sont partis en fumée, c'est 2 fois la Belgique. Le capitaine Stephen Knowles ne veut pas trop se mouiller, mais comme de nombreux pompiers ici, il enrage contre son gouvernement.
The resources are very stretched. There's probably 20,000 people in the state that do what we do.
Les moyens ne sont pas suffisants. Il faudrait probablement 20 000 hommes dans tout le pays pour combattre le feu. D'habitude, on a du renfort, mais là, tout le monde est occupé. Et un peu d'aide serait la bienvenue.
Dans le meilleur des cas, il faudra, selon lui, encore 4 semaines pour contrôler les incendies, bien plus selon les caprices du mercure et du vent.
C'était un reportage de Gaëlle Joly avec Arthur Gerbeau pour les moyens techniques en Australie. C'est une décision inédite qui a été prise en Irak hier. Le Parlement, réuni en session extraordinaire, a appelé au départ des troupes de la coalition internationale, troupes qui sont sous commandement des États-Unis. Plus de 5000 militaires américains sont actuellement déployés en Irak, mais après l'attaque américaine contre un représentant iranien à Bagdad vendredi dernier, après cette attaque donc, les parlementaires irakiens ne veulent plus de la présence américaine sur leur sol. En tout cas, ceux qui ont voté hier au Marwaman.
La colère des députés chiites a été plus forte que le boycott des parlementaires kurdes et sunnites. Mais cette résolution, votée à main levée, n'est toutefois pas contraignante pour le gouvernement. Sauf que c'est le premier ministre irakien en personne, Adel Abdelmadi, toujours en fonction malgré sa démission en novembre dernier, qui a demandé au Parlement de mettre fin à la présence des troupes étrangères en Irak. Et donc des 5200 soldats américains, ce qui signifie que 2 possibilités s'offrent désormais au gouvernement irakien. Accéder à la demande du Parlement et appeler les forces étrangères à partir sur le champ, ou bien revoir les contours de leur mandat par un processus parlementaire. Reste que ce vote est historique et très lourd de conséquences en cas de départ précipité des soldats américains. Daesh pourrait se reconstituer face à une armée irakienne mal formée, corrompue. Ses soldats avaient fui devant l'avancée des djihadistes, abandonnant Mossoul, deuxième ville d'Irak, sans combattre.
Alors en Irak, les Américains vont-ils se retirer ? Il n'en est pas question pour le président américain. Donald Trump menace déjà l'Irak de sanctions, menace qui vise également l'Iran en cas d'attaque iranienne contre un ou des Américains. Escalade de violence qui pourrait durer car il n'y a pas de régulateur, note le général Vincent Desportes. Il est professeur des universités associé à Sciences Po.
On ne voit pas très bien qui pourrait jouer le rôle d'intermédiaire entre ces deux États pour arriver à faire baisser les tensions. D'autant plus que on a un acteur qui ne dit rien mais qui a quand même des intérêts en jeu, qui s'appelle la Russie, qui n'est pas directement partie de cette affaire-là, mais qui a été allié et qui l'est encore de l'Iran dans sa lutte contre l'État islamique, et qui ne pourra pas rester neutre dans cette affaire-là. Il n'y a pas de puissance régulatrice capable de réguler cette montée des tensions. On a donc deux États avec des égos très marqués, qui sont les États-Unis, auxquels se rajoute l'égo particulièrement marqué de son président Trump, et puis l'Iran, qui a également une très forte personnalité et qui est sous l'emprise d'une hiérarchie religieuse qui tient à s'affirmer. On a deux puissances qui ont quelque chose à dire au monde, les États-Unis avec leurs valeurs et l'Iran qui est une puissance en elle-même et qui est également messianique.
Des propos recueillis par Nabila Hamel. J'ajoute qu'en ce moment, des milliers de personnes sont rassemblées dans le centre de Téhéran en hommage au général iranien Qassem Soleimani, tué vendredi dernier par une frappe américaine. Nous y reviendrons dans les enjeux internationaux juste après ce journal. Plus à l'ouest, la Turquie commence à envoyer des soldats en Libye. Le Parlement turc avait donné son aval jeudi soir. Le déploiement commence donc, selon le président Recep Tayyip Erdogan. Il souhaite soutenir le gouvernement d'union nationale en Libye qui fait face depuis 8 mois à une offensive du maréchal Haftar sur Tripoli. Le président turc ne s'en cache plus à Nadlower.
Recep Tayyip Erdogan, qui s'était gardé jusqu'ici de livrer le moindre détail opérationnel sur ses projets de déploiement de soldats turcs en Libye, a donc annoncé que ce déploiement était en cours, sans dire quand il a commencé. Selon le chef de l'État, qui répondait à une interview sur la chaîne CNN turque, les militaires turcs sur place auront un rôle de coordination. Ils dépendront d'un centre de commandement placé sous l'autorité d'un général turc. Les soldats d'Ankara ne seront donc pas en première ligne, Recep Tayyip Erdogan l'a répété, mais le président a aussi évoqué de façon très évasive l'envoi d'autres équipes qui seront, elles, des forces combattantes. Ces dernières semaines, les informations se multiplient sur la présence en Libye de combattants syriens arrivés de Turquie pour soutenir le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli. Des mercenaires syriens formés, armés et utilisés par l'armée turque dans le cadre de ses opérations dans le nord de la Syrie.
C'était Anand Lower. Au Venezuela, il y a désormais 2 chefs pour un seul hémicycle. Juan Guaido a été réélu hier président du Parlement par les députés d'opposition. Mais un peu plus tôt, son rival, Luis Parra, s'était autoproclamé chef du Parlement vénézuélien. Le premier est reconnu par les États-Unis, le second par le président Nicolas Maduro, créant un peu plus le chaos dans la classe politique. Les syndicats français fourbissent leurs armes contre la réforme des retraites en cette rentrée scolaire après les vacances de fin d'année et à la veille d'une reprise possible des négociations avec le gouvernement. Même la CFDT se mobilise, elle est pourtant favorable à une réforme des retraites, mais à condition que le gouvernement n'impose pas derrière un allongement de la durée de cotisation. L'âge pivot à 64 ans demeure un gros souci pour le syndicat de Laurent Berger. Le secrétaire général de la CFDT continue comme sa base d'exiger son retrait, Maxime Debs.
Et pour obtenir ce retrait, pas question de rester les bras croisés. Vincent Pigache de l'Union locale CFDT de Courbevoie envisage tout type d'action dans la semaine.
Rassemblement devant les préfectures ou ailleurs, rencontre avec les élus.
Car il faut bien dire qu'Emmanuel Macron a déçu ici mardi dernier alors que tout le monde à la CFDT attendait qu'il lâche sur cet âge pivot.
Bon, moi qui étais devant ma télé, oui, je m'attendais quand même à un petit geste de sa part qui n'est pas venu.
À côté, Nadine qui travaille en crèche, 58 ans, n'en peut déjà plus alors quand elle entend ce chiffre de 64 ans.
Pas pour nos professions, parce que déjà, à partir de 58-60 ans, on est déjà foutu. On est plusieurs collègues comme ça, où finalement, on se met en arrêt longue maladie, au moins 2-3 ans avant la retraite officielle. C'est impossible.
À l'hôpital aujourd'hui, infirmières et aides-soignants peuvent dans certains cas bénéficier d'un départ à la retraite anticipée à 57 ans. Avec cet âge pivot porté à 64, le gouvernement promet certes des aménagements, mais les soignants concernés devront aller sur le papier au moins jusqu'à 60. Malika travaille en EHPAD.
Aujourd'hui, cette réforme des retraites, on sait très bien qu'elle doit se faire parce qu'on ne peut pas rester sur l'ancien système. Mais par contre, cet âge pivot, il faudrait que M. Macron entende qu'il doit revenir là-dessus. Si c'est pour partir avec une retraite de misère, c'est une double peine.
Le maintien de cet âge pivot est-il ainsi tenable pour le gouvernement? À la CFDT, en l'état, les militants assurent être prêts à ne rien lâcher jusqu'à son retrait.
Et 2 journées de mobilisation interprofessionnelle sont déjà prévues, jeudi et samedi. Ce lundi, les prévisions de trafic s'améliorent à la SNCF avec 8 TGV sur 10, 2 TER sur 3. En Ile-de-France, à la RATP, en revanche, si 14 des 16 lignes fonctionneront aujourd'hui pour le métro, le trafic, en revanche, sera très partiel. Et le temps de ce lundi, les prévisions n'ont pas changé. Il fera doux et sec sur l'ensemble du pays jusqu'à l'arrivée de la pluie par l'ouest dans l'après-midi. Comptez ce matin 1 degré à Strasbourg et Lyon, 2 à Lille, Rennes et Paris, 3 degrés à Clermont-Ferrand, 10 à Marseille.
Il est 6h40, vous écoutez France Culture, l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Clara Lecoq-Réal, bonjour à tous.
Cette question ce matin, Julie, l'Iran veut-il pousser les États-Unis à la guerre?
Oui, jusque-là, le régime de Téhéran paraissait vouloir mettre à l'épreuve la stratégie dite de pression maximale des États-Unis, mais en faisant le pari que Donald Trump n'irait jamais à la confrontation, et d'autant moins à mesure que se rapproche l'élection présidentielle, lui qui a été élu en 2016, notamment en critiquant les guerres inutiles. En ordonnant jeudi dernier le bombardement qui a tué le général iranien Qassem Soleimani posté en Irak, le président américain a montré qu'il était prêt à passer un nouveau stade. La stratégie américaine, Guillaume Erner en parlera dans la question du jour tout à l'heure avec son invité Bruno Tertrais. Nous nous concentrons quant à nous sur ce que peut l'Iran. Avec vous, Manas Shirali, bonjour.
Bonjour Julie Gacon.
Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue et politologue, directrice d'études à l'Institut catholique de Paris et vous êtes enseignante à Sciences Po. Alors Manas Shirali, l'ayatollah Khamenei a promis vendredi qu'une vengeance implacable attendait les États-Unis après l'assassinat de Soleimani. Depuis, d'autres déclarations officielles sont venues modérer ses propos. Est-ce que la possibilité que l'Iran riposte à son tour à cette attaque américaine dépend d'un rapport de force qui existerait toujours à Téhéran entre les réformateurs et les conservateurs, puisque c'est l'image qu'on en a toujours?
C'est vrai que la République islamique n'est pas un bloc uni. Il y a des tendances différentes à l'intérieur. Mais je pense que la diviser en deux réformateurs, en deux camps réformateurs conservateurs, n'est pas vraiment justifié. On voit très bien, par exemple, face à la contestation massive des Iraniens pendant le mois dernier, pendant le mois de novembre, ils se sont réunis, ils ont parlé d'une même voix pour réprimer les Iraniens. Quand ça les arrange, ils sont solidaires, mais à l'intérieur, évidemment, il y a des fractions différentes, il y a des tendances différentes qui ne se réduisent pas quand même aux deux camps réformateurs, conservateurs. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais je pense que ça, c'est une tendance très occidentale pour faciliter, pour caricaturer la situation, pour la rendre plus compréhensible. On dit réformateur, conservateur, mais il n'y a pas beaucoup de différence finalement entre les réformateurs et conservateurs. Il y a d'autres types de distinctions.
Alors, par exemple, une distinction qui a été mise en évidence par des documents révélés en novembre par le site d'enquête The Intercept, qui révélait notamment combien est divisé l'état profond iranien, comme on dit. Ce sont des documents du ministère des renseignements iranien et qui donc révélaient ces divisions entre ce même ministère des renseignements, donc qui dépend du gouvernement, et les gardiens de la révolution dont faisait partie le général Soleimani via sa branche Al-Quds chargée des relations extérieures et qui, eux, n'obéissent qu'au guide suprême. Est-ce que cette distinction-là existe encore et est-ce que la mort du général Soleimani a créé finalement une sorte de front commun? On a vu des dizaines de milliers de personnes assister à ses obsèques ou à manifester contre cette frappe américaine. Est-ce que cette mort a fédéré des entités qui étaient jusque-là en opposition?
Et est-ce que cette mort a fédéré des entités à l'intérieur du régime? Et quand ils se sentent en danger, les dirigeants de la République islamique, ils se solidarisent. Ça, c'est un fait. On l'a déjà vu à plusieurs reprises face aux plusieurs crises. On a toujours vu qu'ils ont cette capacité d'oublier leurs conflits internes et de se solidariser.
Et les critiques aussi émises envers le général Soleimani, parce qu'il n'était pas exempt de critiques, et notamment en interne en Iran. On lui reprochait notamment de s'être mis à dos la population sunnite ou d'utiliser la guerre contre le terrorisme pour sa carrière personnelle.
C'est un euphémisme de dire qu'il a été critiqué parce qu'il était l'un des personnages les plus détestés des Iraniens. On le considérait comme le chef de toute la République islamique, en quelque sorte. Les rumeurs disaient que c'est lui qui donne des ordres au guide de la révolution. Il était tellement puissant et à chaque fois qu'il a eu des répressions, c'était vraiment ses troupes qui tuaient les populations dans les rues iraniennes. Donc, c'est pourquoi dire critiqué. C'était un personnage détesté.
Et
ouais. Absolument. Et là, la question qui est, c'est évident, depuis hier, on me demande comment ça se fait qu'il y a autant de gens dans les rues, mais la République islamique a cette capacité de réunir ses troupes, ses sympathisants. Ce n'est pas du tout un régime incapable de réunir quelques centaines de milliers dans les rues. C'est tout à fait possible. C'est un pays peuplé de 80 millions d'habitants. Et quand dans un pays de 80 millions d'habitants, il y a quand même un millions de personnes qui défendent leur intérêt ou par peur, comme vous voulez. Il y a toutes sortes de motivations derrière les gens qu'on a vus hier dans les rues iraniennes. Mais on a vu aussi, à peine il y a un mois, 16 millions d'Iraniens devant les forces de l'ordre en train de donner en fait leur avis alors qu'on a, tiré sur eux.
Des millions d'Iraniens qui ont manifesté à partir de la deuxième quinzaine de novembre, notamment pour demander au régime de se concentrer sur l'économie de leur pays, l'économie étouffée par les sanctions américaines. Est-ce que l'opinion publique compte dans ces cas-là ou est-ce que l'Iran ne donne la priorité qu'à sa politique étrangère versus l'économie intérieure de l'Iran?
En fait, le problème de la République islamique depuis 40 ans, c'est que les intérêts nationaux des Iraniens ne sont jamais entrés en ligne de compte. Les ayatollahs, ils voulaient toujours s'affirmer dans la région en tant qu'une puissance et donc ils ont sacrifié les intérêts nationaux et c'est exactement le point sur lequel les Iraniens reviennent systématiquement et c'est la raison profonde du mécontentement de la société iranienne parce que les Iraniens normaux ne comprennent pas pourquoi ils doivent vivre dans une situation si inférieure économiquement, humainement et alors qu'ils vivent dans un pays extrêmement riches et pourquoi leur richesse nationale doit être lapidée dans les pays de la région pour tuer leur population. Si c'était pour construire quelque chose, c'était bien. Monsieur Qassem Soleimani, il a le sang de 500 000 Syriens sur la main. C'était le conseiller privilégié de Bachar Assad. Donc, il ne faut pas oublier à quel personnage nous avons affaire. Nos sentiments anti-Trump nous fait pousser de l'autre côté en créant une belle image de Soleimani et on oublie que c'était un grand, grand conseiller de Bachar Assad et vraiment, on n'est pas en face d'une victime, une colombe blanche, comme certains médias essayent de le montrer.
Alors pour se lancer dans la riposte aux États-Unis, il faudrait que l'Iran décide de verser encore plus d'argent, alors notamment en Syrie que vous venez de citer, pour l'entretien, l'installation de bases militaires. Il faudrait financer davantage encore l'arsenal de missiles du Hezbollah ou l'entretien des milices irakiennes. Est-ce que l'Iran a les moyens de faire ça ?
L'Iran avait le moyen, grâce aux recettes pétrolières de ce pays. L'Iran était un pays riche, mais depuis que les Américains ont lancé la sanction, alors là, maintenant, l'Iran n'a plus les moyens. Et les ayatollahs sont à court d'argent, et d'où, en fait, les agitations actuelles, ces manières de montrer les muscles, c'est parce qu'ils sont vraiment à court d'argent, et il faut pas oublier. La chose la plus importante qu'il faut comprendre par rapport à l'Iran, c'est que la République islamique est un empire de mercenariat. Pendant 40 ans, ils ont créé des mercenaires un peu partout dans la région sans jamais pouvoir créer de véritables structures de pouvoir, d'infrastructures de pouvoir, jamais. Mais sont des mercenaires, quand on les paye, ils sont là et quand on n'a plus d'argent de les payer, ils les lâchent. Vous voyez ce qui se passe en Irak et au Liban. Là, maintenant, le Hezbollah n'est plus accepté parce que le Hezbollah n'a plus d'argent. Et il payait, tant qu'il payait, il avait certaines popularités. Mais à partir du moment où il n'a plus l'argent de payer, là, les Libanais ne veulent plus de lui.
Le nouveau Premier ministre qui vient d'être nommé ou élu, Hassan Diab, est certain sunnite, mais il est soutenu par le Hezbollah. Donc c'est pas complètement, l'influence iranienne n'est pas complètement morte au Liban.
Non, l'Iran a mis 40 ans pour installer son influence. Donc cette influence ne va pas être éradiquée du jour au lendemain. Donnons aux Libanais un peu de temps.
Alors par exemple, si le Hezbollah s'en prend aux intérêts militaires américains dans la région comme il menace de le faire, est-ce que ce sera une décision du Hezbollah lui-même ou une demande de l'Iran ? Jusqu'où aujourd'hui sont-ils encore liés dans ce genre de situation ?
Et le Hezbollah est encore à 100% sous la tutelle des Iraniens. Il s'est jamais libéré. Mais ce sont les peuples libanais qui sont en train de se débarrasser du Hezbollah. C'est différent.
Alors vous dites que l'Iran est à court d'argent, il n'est pas apparemment à court d'équipement quand une installation pétrolière saoudienne Aramco a été attaquée pendant l'été ou en septembre. Alors l'Iran n'a jamais formellement, son implication n'a pas été formellement démontrée, mais l'Arabie saoudite s'est fait forte de montrer les débris de missiles qu'il avait utilisés. C'était des missiles, notamment 4 missiles de croisière extrêmement précis qui peuvent frapper en profondeur et surtout des missiles indétectables. Donc l'Iran est quand même équipé.
Et c'est vrai qu'en fait, il ne faut pas oublier que nous avons affaire à des ayatollahs. Les ayatollahs sont des religieux et leur religiosité est essentiellement fondée sur le principe de la tariyé. Tariyé, c'est le mensonge en islam. Ça veut dire quand vous êtes en danger, vous mentez. Alors, ce principe de tariyé, ça fait que les ayatollahs sont maître de la manipulation de l'opinion publique, de l'image. Ils savent donner l'image qu'ils veulent.
Là, c'est
ils
l'Arabie Saoudite qui a montré les photos de ces missiles.
C'est-à-dire que les Iraniens attaquent les installations saoudiennes et après, ils se retirent. C'est pas nous. Vous voyez? Donc, c'est un jeu de manipulation d'image. Ce sont les tactiques extrêmement fines, les tactiques politiques extrêmement fines. Les ayatollahs sont très habiles là-dessus. Ils savent pas gérer les pays. Ils savent pas gérer l'Iran. Ils n'ont jamais su gérer correctement. Le Hezbollah n'a jamais su gérer correctement le Liban. Par contre, quand il s'agit des tactiques sournoises, ils sont très habiles et ils savent comment manipuler l'opinion publique.
Alors, qu'est-ce qui peut se passer? C'est-à-dire que, par exemple, dans ce détroit d'Ormuz, jusqu'à présent, c'est ici hein, que se concentrait cet affrontement américano-iranien, dans le détroit d'Ormuz, avec, dans le golfe Persique, une base militaire américaine énorme hein, qui existe, 7000 soldats qui se trouvent à Bahreïn, juste en face des côtes iraniennes. Est-ce que là, on a atteint le stade ultime de l'équilibre de la terreur? Qu'est-ce qui peut se passer? Jusqu'où peut aller l'Iran?
Moi, je crains le pire, parce que je sais que les ayatollahs sont capables de tout. Et ils n'ont aucun problème pour assassiner leur propre population. Ils n'ont aucun respect pour la vie humaine. On a vu comment ils ont conseillé Bachar Assad en Syrie. Ils sont parfaitement capables de faire la même chose avec leur propre population. Et même, moi je pense que plutôt, quand ils voient que leur fin arriver, ils sont parfaitement capables d'embraser toute la région.
Alors peut-être justement pour s'extraire, parce que vous avez l'air affecté, ou en tout cas d'avoir une opinion sur ces ayatollahs, mais pour, dans les faits, parler de ces relations qui peuvent subsister entre l'Iran et la Syrie, puisque le général Soleimani, vous l'avez bien expliqué, était un lien entre Bachar el-Assad et l'Iran. C'est lui notamment qui a convaincu Vladimir Poutine d'intervenir pour sauver le régime, mais sans le général Soleimani, comment l'Iran peut conserver ce rôle? Qui sont encore ceux qui vont faire le lien?
Vous savez, la caractéristique principale de général Soleimani, comme il le disait lui-même, il disait « je suis le soldat de l'islam ». Il n'a jamais eu la moindre fibre nationale ou patriotique par rapport à l'Iran. Et il n'a pas été un grand compétent dans l'art de guerre ou de l'art militaire. C'était un tueur. Il a conseillé Bachar Assad de tuer sa propre population. Ce genre de conseil, ce genre d'idéologie, ce genre de pensée ne demande pas beaucoup de compétences. Il faut avoir un peu de cruauté et là, vous arrivez à faire l'affaire. Donc je pense que dans sa médiocrité, général Soleimani est parfaitement remplaçable. Et comptez sur la République islamique pour avoir ce genre d'agent de plus en plus, et il n'y a aucun problème, ils vont le remplacer.
Donc pour vous, sa mort ne va pas entraver ce grand projet iranien de se déployer partout où c'est possible au Moyen-Orient, notamment, c'est ce qui s'est passé à la faveur de la guerre civile en Syrie, ou de l'effondrement aussi en Irak, de l'effondrement du bassisme ou de l'état bassiste en Irak. D'ailleurs, une question sur l'Irak, on a beaucoup parlé de l'ingérence iranienne, l'ingérence américaine est aussi très forte en Irak, et finalement ce qui est paradoxal, c'est que à plusieurs reprises, ces deux pays Iran et États-Unis, qui se considèrent un peu comme les parrains de l'Irak après Saddam Hussein, se sont aussi retrouvés souvent en situation de coopérer en Irak.
Comme je l'ai dit déjà, c'est la région des alliances éphémères et des animosités permanentes. Donc, de temps en temps, ils font des alliances, mais ça ne dure pas longtemps. Et la seule chose qui peut affecter la République islamique, ce n'est pas la mort de ces soldats, parce qu'il y a des soldats comme Qassem Soleimani, il y en a partout, en fait. Ils en ont pas mal. C'est pas ça. La seule chose qui peut affaiblir la République islamique, c'est manque d'argent. C'est un empire de mercenariat dans la région, c'est un château des cartes, et cet empire de mercenariat est fondé sur le pétrodollar. Quand il n'y a pas d'argent, quand ils n'ont plus de quoi payer leurs soldats, personne ne les soutient.
Est-ce que l'Iran est aujourd'hui en mesure de placer un proche à la tête de l'État irakien, comme il le souhaiterait depuis la démission du Premier ministre Adel Abdelmadi? Qui est-ce que ça pourrait être?
Je ne pense pas, parce que là maintenant, vraiment, l'opinion publique irakienne est très anti-iranien. À la grande tristesse des Iraniens, la population iranienne, par exemple, quand les Irakiens étaient dans les rues en criant l'Iran dort, Iran Berra Berra, ça c'est le slogan arabe, ça faisait mal aux Iraniens parce que la société iranienne pense exactement la même chose. La société iranienne pense pourquoi nos dirigeants, qu'est-ce qu'ils font nos dirigeants dans la politique interne de notre pays voisin. Donc l'opinion publique était triste parce qu'on est toujours d'accord avec la population irakienne et là maintenant par rapport à ce qui se passe en Irak, par rapport à l'opinion publique, par rapport au fait que les sunnites et les chiites sont tous les deux d'accord que l'Iran n'a pas sa place en Irak, moi je pense que ça va être difficile pour les ayatollahs de placer leur pion à l'intérieur du gouvernement irakien.
Manachir Ali, comment les États-Unis ont en fait renforcé le régime contre lequel ils se battent aujourd'hui en faisant tomber Saddam Hussein, qui était l'un des plus grands ennemis de l'Iran, puis peut-être aussi un peu plus tard, d'ailleurs concomitamment, en s'attaquant aux talibans, autres ennemis du régime iranien. Quelle est la responsabilité des États-Unis dans ce qui leur arrive aujourd'hui et ce contre quoi ils se battent?
Je pense que les Américains, depuis la chute de Saddam Hussein jusqu'à aujourd'hui, ont fait des erreurs monumentales dans la région. On n'a pas le temps de les énumérer, mais en tout cas, ils ont une immense responsabilité dans l'instabilité de la région. Et ils ont vraiment donné la possibilité aux ayatollahs d'installer leur ingérence dans la région. Et s'ils n'étaient pas aussi mauvais dans la gestion du Moyen-Orient, les ayatollahs n'étaient pas aussi, puissants dans certaines mesures dans la région.
Merci beaucoup Manachir Ali d'être passé dans nos studios ce matin. Alors je rappelle le titre de votre dernier livre, ça s'appelle La malédiction du religieux et c'est paru chez François Bourin, éditeur. Merci à vous, bonne journée.
Merci Julie Gacon.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Du lundi au vendredi sur France Culture, Adèle Vendrette prend la vie avec philosophie.
Qui a dit que la philosophie n'était pas accessible à tous? Chaque jour, je vous emmène à la découverte d'un philosophe à partir d'un poème, d'un roman ou d'un film, en musique et en chanson, pour voguer en sécurité sur la mer parfois houleuse des discussions philosophiques.
Cette semaine, la grève. La grève du sexe contre la guerre chez Aristophane, la grève des mineurs d'Anzin qui inspire Germinal Zola, la grève dans les chemins de la philosophie, cette semaine à 10h et sur franceculture.fr.
France Culture présente l'exposition Tolkien, voyage en terre du milieu. Lorsqu'en 1937, Tolkien publie Le Hobbit, il est loin d'imaginer que l'ensemble de ses récits fera de lui l'une des figures littéraires les plus importantes du XXe siècle. Dévoilant à la fois l'homme et son œuvre, la plus grande exposition jamais réalisée sur le sujet réunit 300 pièces exceptionnelles, avec notamment de nombreux manuscrits et dessins originaux de l'auteur. Tolkien, voyage en terre du milieu, jusqu'au 16 février, à la BNF François Mitterrand, à Paris. Un partenariat France Culture et France Télévisions.
Bienvenue et bonjour sur France Culture. Si vous nous rejoignez, il est 6h57. Bonjour Guillaume Herbert.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
C'est votre humeur du jour, Guillaume, déjà la préfète et c'est pas drôle pour
vous
apparemment.
Non, effectivement, c'est pas la peine de vous faire un dessin, hein, Julie, c'est pas la période la plus drôle du calendrier. Rien de très exaltant ne nous attend, je vais pas vous faire non plus la liste de ce qui compose l'actualité aujourd'hui. Troisième guerre mondiale, transport à l'arrêt, commémoration des attentats du 7 janvier, le bonheur quoi. Tout cela est suffisamment difficile, mais en plus, le créateur a choisi de nous envoyer un fléau supplémentaire, la gastro. Alors en tant qu'athée, je cherche à comprendre si le créateur est véritablement miséricordieux. Pourquoi profite-t-il du 6 janvier pour nous envoyer la gastro, laquelle frappe? Vous allez compter hein, les absents, les remplacer dans cette matinale. Dans chaque foyer français aussi, je vous livre mes statistiques personnelles, elle peut toucher jusqu'à 50% d'une famille, ce qui est particulièrement douloureux dans les familles de 5. J'ai beau avoir lu Darwin, je ne comprends pas pourquoi l'évolution des espèces a laissé se perpétuer une maladie aussi malaisante, aussi humiliante, il faut le dire. On peut faire de la radio avec à peu près tous les ennuis de la création. Julie, vous le savez, un mal de dos, une rage de dents, c'est pas très agréable, une migraine même, mais avec une gastro, ça peut devenir acrobatique. Dès lors, il y a quelque chose d'effrayant dans cette carte, vous savez, de la gastro-entérite, le pic épidémique, promesse des moments difficiles. Je peux vous dire qu'en ce moment même, la gastro-entérite gagne du terrain en région Rhône-Alpes, tandis qu'elle est déjà à un niveau particulièrement élevé en centre, Val-de-Loire, 258 cas pour 100 000 habitants, c'est peut-être votre cas. C'est la plus forte épidémie depuis 10 ans, à croire que les dieux en veulent vraiment beaucoup à la France. Il ne manque plus que les chaussures trop petites et notre calvaire sera complet. Reste à penser en philosophe à la maladie, par exemple avec Canguilhem qui ne peut rien contre la nausée, pas celle de Sartre. Quand Guilhem, en revanche, qui pensait les croyances relatives à la maladie entre et sort du corps comme par la porte, précisait-il, en guise d'avertissement pour l'après-gastro, la guérison n'est pas retour à l'innocence biologique.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Par ces temps difficiles, nous avons besoin de Camus, d'Albert Camus, disparu un 4 janvier 1960. On en parle à partir de 7h40. On sera en compagnie de l'historien Vincent Duclert. En attendant, il est 7h sur France Culture et je vous souhaite un excellent réveil.